De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, on aurait pu voir à la 2, mais on ne l'a pas fait. On a voulu voir Nos batailles et Amine, mais on n'a pas pu. Mais on a quand même vu des films dont on va vous parler et même rencontrer un réalisateur que vous allez pouvoir écouter. Manu, de quoi tu vas nous parler?
De deux films de SF, Upgrade de Leigh Whannell et Hostile de Mathieu Turi.
Marine, qui n'est pas là pour cette présentation, nous parlera de Un peuple et son roi, film de Pierre Scholler. Et puis, eh bien, nous pourrons écouter Michel Toesca, le réalisateur de Libre, documentaire bien sûr l'accueil des migrants, qu'on recommande chaudement. Et ce sera l'occasion de jouer à un blind test spécial migrants et clandestins au cinéma. Mais on commence avec Frères Ennemis, film de David Olofen.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Vous la connaissez, cette bande?
C'est pas une bande.
Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble.
Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit.
On était amis?
On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis.
Alors, le cinéma, c'est parfois aussi simple qu'un bon casting et une bonne mise en scène malgré un sujet maintes fois rebattu. La preuve avec Frères Ennemis de David Olofen, qui avait sorti Loin des Hommes avec Viggo Mortensen et Reda Kateb il y a 4 ans. Un film tendu qui avait eu du mal à faire déplacer les spectateurs, peinant à dépasser les 100 000 entrées. Je pense qu'il peut faire mieux avec Frères Ennemis. Polar survitaminé, stylisé, mais sans chichi et sans effet de mise en scène trop appuyé, qui sait donner de la profondeur au personnage et créer une tension propre au film de gangster. Alors cette qualité tient déjà au casting. Le réalisateur a de nouveau pris Reda Kateb, qui fait partie peut-être des 5 acteurs français convaincants en ce moment, en y ajoutant la belle gueule de Matthias Schoenaerts, qui est un acteur particulièrement brillant. L'un a un physique singulier, pour ne pas dire une vraie gueule, quand l'autre a un physique de minet, adepte de la muscu. Eh bien, ces deux-là sont des amis d'enfance dans le film. L'un a rejoint la police des stupes, l'autre a rejoint plutôt le trafic de stupes. Le premier atout du film, c'est que ce n'est pas Reda Kateb qui va faire le voyou, mais bien Matthias Schoenaerts. Kateb, lui, sera Driss, le flic issu des quartiers, celui qui aura tenté de quitter son milieu de la manière la plus radicale, en s'écartant des voyous pour prendre la place de ceux qui les coffrent. L'histoire de Frères Ennemis alors, est simple. À la veille d'un gros coup, Matthias Schoenaerts, qui incarne Manu, est le seul survivant d'une attaque sanglante qui voit mourir deux hommes. Alors on ne sait pas qui est l'auteur de l'expédition punitive, mais Manu est victime de la rumeur. Dans le quartier, certains pensent qu'il a voulu doubler son meilleur ami avec qui il trafiquait entre l'Afrique et la France. Un ami qui était devenu le tonton, l'indique donc de Driss.
Manuel,
je suis fou là, mec.
Je savais que tu passerais par là, lâche ça.
T'as rien à branler là, dégage.
Lâche ça.
Je pars pas au flic, dégage, je t'ai dit.
Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus?
Qu'est-ce que ça peut te foutre?
T'as besoin de moi, Manuel, j'ai entendu les rumeurs. Je sais que c'est pas toi, mais j'ai besoin de savoir qui c'est.
T'as toujours dit qu'on vivrait pas vieux. T'es pas content, t'avais raison. Alors casse-toi.
Imran bossait avec moi?
Ouais, c'est ça, arrête tes conneries, mec.
Je peux te donner les dates de ses voyages à Conakry, ses contacts, les quantités de drogue achetées, je peux te dire l'hôtel où il est descendu. L'intercontinental. Je peux te donner l'adresse de la maison où t'as crêché au Portugal en attendant la cam. Je continue encore, là?
Imran n'aurait jamais bossé avec les flics. C'est toi qui nous as suivis et tu nous as mis sur écoute, c'est tout.
Il s'est fait serrer par les douaniers il y a un an sur votre petit trafic à Amsterdam. Il est venu me supplier de l'aider.
Ouais, n'importe quoi.
Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Vous êtes tous prêts à donner votre mère pour sauver votre gueule. Imran, toi, tous les autres, c'est pareil.
Tu viens m'expliquer la vie, là? Toi, le roi des fils de pute.
Non, 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 je viens pas t'expliquer la vie, je viens me proposer un marché.
Moi, j'ai rien à dire.
Imran devait livrer de la coke aux Reyes. Apparemment, ils étaient OK. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé.
Ben, compte pas sur moi. Les Reyes, je sais pas qui c'est.
Je sais pas qui c'est, les Reyes, non. Sans moi, t'es mort, Manuel.
Non, c'est toi qui es mort si tu reviens ici.
J'aime bien quand les distributeurs sont généreux et nous donnent des extraits qui permettent eh bien, de rentrer un peu dans ce film. Alors tout ne se joue pas dans cette séquence, mais elle a son importance car Driss eh bien, se retrouve dans la cave d'un immeuble, passage obligé pour Manu, le caïd qui doit se faufiler pour éviter les balles. C'est un retour aux sources pour le flic qui, à mesure que le film va avancer, eh bien, va briser l'armure. La séquence du début nous met d'ailleurs en alerte. Il réalise une descente chez des dealers. L'un d'eux l'interpelle en arabe et lui répond qu'il ne parle pas cette langue. Mais son corps dit tout le contraire. Hein. Ce passé, cette trajectoire dans la cité reste donc bien présente chez ce flic qui va devoir régler quelques comptes avec lui-même. Le rapport du trafiquant, alors lui, est peut-être moins complexe. On le voit davantage batailler avec le rêve d'une vie de famille qui s'est écroulée, comme s'écroule maintenant l'illusion d'une belle vie faite de trafic et d'argent. Le réalisateur ne sacrifie rien au suspense. S'il y a bien du rythme et de l'action, il y a aussi de larges moments où les personnages existent et évidemment se confrontent. Ces deux amis qui sont chacun d'un côté de la loi vont mettre du temps à se revoir comme à se comprendre. David Holofen ne réduit pas ses personnages à des clichés. Driss, le flic, vit seul avec sa fille et se montre un fonctionnaire dévoué, comme un père attentif. Il n'a pas des problèmes d'alcool, mais d'identité. De son côté, Manu se retrouve esselé, tiraillé lui aussi avec une vie qu'il a laissé filer, une vie de famille donc avec une femme qu'il aime. Le milieu du trafic, alors là, est vu sans romantisme, sans non plus de complaisance vis-à-vis de la violence. La cité est un élément de l'histoire qu'on nous raconte sans que le réalisateur ne la stigmatise. C'est un lieu connu des deux personnages dans lequel chacun se faufile alors à sa manière, l'un parce qu'il a trahi les siens en devenant flic, et puis l'autre eh bien parce qu'il est désigné coupable idéal. Les hommes et d'où ils viennent comptent davantage que les lieux qui les enferment. C'est aussi l'une des prouesses de Frères Ennemis qui transcende le polar pour raconter une histoire universelle, sensible et très bien écrite, tout comme elle est bien filmée. De plus, eh bien, l'image, le rythme, les sons, on a entendu un petit extrait là, enfin, ils sont dans une cave et vraiment il y a tous les sons subtils d'une cave d'immeuble. L'interprétation, tout en nuances et l'intensité des comédiens, de ce qu'ils mettent dans ce film, eh bien, rendent ce film absolument captivant. Il a été présenté à Venise, il n'a rien obtenu. Bon, ça arrive. Hein.
Ça arrive, bah oui. La plupart d'ailleurs n'obtiendraient.
Mais en tout cas, je vous conseille vraiment, si vous aimez les polars, si vous aimez eh bien les bons jeux d'acteurs, d'aller voir ce film. C'est Frères Ennemis avec une musique de Superpose. Et on le note parce que c'est aussi la musique du générique de Cinérama. Manu, justement, un autre. Ça va être l'occasion de parler prothèse, je crois.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Je suis Stem, le système qui actionne votre corps à votre place.
Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre ?
Seulement vous.
Alors, plus intelligence artificielle que prothèse,
d'accord,
en fait. Hein. Voilà, Leigh Whannell, le réalisateur, alors, n'est pas un novice en matière de films de genre. Hein. Il officie dans l'ombre depuis le début des années 2000, puisqu'il est connu avant tout pour être le scénariste de Saw et de la plupart des suites. Alors, cet artisan qui connaît son métier est passé derrière la caméra avec le fort décevant Insidious 3, qui se contentait de reprendre les éléments des précédents opus sans approfondir et renouveler les thématiques. Alors, l'exercice du premier long au sein d'une franchise reste souvent ingrat et ne permet que très rarement de mesurer le talent d'un cinéaste. Donc, cette fois-ci, Whannell s'échappe du cinéma horrifique en partie. Alors, pour s'orienter vers la SF traditionnelle, ou plutôt l'anticipation. Upgrade se déroule donc dans un futur proche, représenté de manière assez minimaliste. Le décor n'a rien de clinquant ou de fantaisiste, les gadgets de demain sont quasiment absents, à l'exception de quelques voitures ou looks un peu high-tech, dotés de quelques gadgets, enfin voilà, d'une technologie de pointe. Mais bon, ça, on l'a déjà vu un peu partout ailleurs. Alors, le film ne déploie pas le programme habituel d'une société dystopique régie par une dictature ayant l'apparence d'une démocratie, alors au nom du bien-être pour tous. Non, cette production Blumhouse s'avère bien plus simple dans ses intentions, s'emparer d'une matière propre au genre, l'intelligence artificielle, pour bifurquer du côté du film de vengeance, du moins dans un premier temps.
Je vous explique. Quatre types ont buté ma femme.
Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau ? Je l'ai appelé Stem. C'est un nouveau cerveau surdimensionné.
Il va nous falloir un plan.
Je gère.
Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi.
Stem !
J'ai besoin de permission pour agir en solo.
Permission accordée !
Merci.
Tu savais pas que j'étais un ninja ?
Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja.
Alors, quatre types ont buté ma femme, c'est du Charles Bronson.
Voilà, c'est un peu ça. Voilà, en fait, comme vous l'avez compris, donc après l'assassinat de son épouse, le héros, Gray Trace, il est donc approché par un jeune inventaire blondinet, milliardaire, qui donc lui propose de lui administrer un remède expérimental qui va littéralement décupler ses capacités physiques. Alors, il est doté d'un implant fonctionnant à l'intelligence artificielle. Donc, il passe d'un handicapé moteur, puisqu'il était tétraplégique, à une sorte de super-héros guidé par une voix intérieure. Alors il se lance donc dans cette mission vengeresse digne d'un film de Vigilante en fait. Hein.
Ou de K2000 aussi.
Oui, hein. De K2000. Enfin, c'est d'un film américain vraiment basique. Alors c'est vrai que la première heure, sans surprise, suit le schéma balisé donc, de ce brave type démoli par la perte de l'être aimé qui se retrouve avec la chance inespérée d'assouvir sa justice. Alors le rythme ne faiblit pas, les scènes de combat étrangement similaires à ceux vus dans un autre film de science-fiction, Equilibrium, sont brutales et efficaces. Et l'acteur principal, alors Logan Marshall Green, que je ne connaissais pas, ressemble comme deux gouttes d'eau à Thomas Hardy, sans les grandes oreilles en revanche. Bon. Et puis progressivement, Upgrade suscite un intérêt de plus en plus croissant, se frayant un chemin du côté de la quête existentielle. D'abord avec cette intelligence artificielle contaminant le corps du héros et prenant de plus en plus de place. Au-delà d'un épilogue que l'on devine partiellement, l'intrigue distille quelques surprises quant à la véritable raison du meurtre de sa femme, mais surtout de son accident. Alors Wannell n'invente rien, décline un savoir-faire visuel au service d'un scénario linéaire, mais plutôt malin. Certes, tout l'aspect réflexif d'une thématique assez passionnante hein, quant aux enjeux philosophiques, éthiques, n'est traité qu'en surface, mais en revanche, le film demeure un portrait assez poignant d'un homme qui perd le contrôle de lui-même, se déshumanise dès lors qu'il a accepté de conclure, on va dire, une sorte de pacte avec le diable, hein. Cette entité prenant possession de son corps et de son esprit. Alors devenir un super-héros en laissant un autre prendre sa place à l'intérieur n'est-il pas pire que de rester paraplégique toute sa vie ? Pas dire que c'est la question essentielle du film, mais c'est important de se la poser. Alors le manque d'ambition et de perspective narratif est compensé par une réalisation nerveuse, dotée d'un montage très dynamique et d'une photo soignée, rappelant certaines séries B futuristes des années 80, bah, à l'instar du premier Terminator, hein, référence d'ailleurs largement assumée du réalisateur, ou alors du méconnu, un autre film, Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, qui a écrit Jurassic Park, entre autres. Voilà, donc il y a un petit côté vintage dans Upgrade qui est assez stimulant, une science de l'économie qui fait plaisir à voir. Le réalisateur va à l'essentiel, alors quitte à flirter avec le thriller d'action le plus rudimentaire. Alors sans rivaliser, on est loin de là, avec les grandes réussites visionnaires du genre, bah, cette modeste production, hein, qui ressemble à un direct vidéo hein, finalement, s'avère parfaitement comestible. Voilà.
Eh bien, on en est déjà à deux films à voir. Et puis, eh bien, un troisième, c'est le documentaire de Michel Toesca, Libre.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Alors, pas du tout une comédie. En 2015, Michel Toesca, réalisateur et habitant de la vallée de la Roya, une enclave au sud-est de la France, commence à filmer les migrants qui se trouvent à deux pas de l'autre côté de la frontière en Italie, à Vintimille. À cette époque-là, eh bien, on ne parle pas du phénomène migratoire qui se déploie sur le sol italien et qui ne va pas manquer de toucher la France et notamment donc la vallée de la Roya. C'est à ce moment-là que le réalisateur décide de s'intéresser à l'action de Cédric Héroux, un agriculteur qui héberge chaque jour eh bien, une vingtaine de migrants passant à proximité de ses champs d'oliviers. Cédric Héroux ne tardera pas à être médiatisé. Hein. L'homme se pose une question simple. Qu'a-t-il le droit de faire avec les demandeurs d'asile qu'il héberge, compte tenu du fait que la préfecture des Alpes-Maritimes ne respecte pas les traités internationaux et refoule les migrants sans même étudier leur dossier, et plus grave, hein, ne prend pas en charge les migrants mineurs qui, eux, eh bien, ne peuvent pas être expulsés. Le documentaire Libre s'attache à montrer les actions menées par des citoyens pour venir en aide à des hommes, femmes et enfants qui recherchent par tous les moyens à rejoindre eh bien, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Norvège. Hein. Ce sont les trois destinations phares. Le film, alors, il est important car il est eh bien, la trace d'un combat qui a permis en juillet dernier au Conseil constitutionnel de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de fraternité hein, sur le fronton des mairies, dont découle la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Sous-entendu, aider un migrant, c'est faire preuve de fraternité, ce n'est plus criminel. On écoute Michel Toesca, le réalisateur de Libre.
Est-ce que vous pouvez juste parler comme si vous parliez en direct ?
Ouais, Cédric Héroux, agriculteur, Bresse-Roya, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache.
Cette gamine, elle est légitime de rester en France, hein, la maman aussi, hein, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile.
S'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils vont devoir me suivre.
Non, je ne suis pas.
Eh bien, ils vont me suivre quand même.
J'ai décidé de centrer sur Cédric, plutôt au montage, parce que j'avais quand même... parce qu'on est arrivé à un montage qui faisait 4h30, 5h, qui était un montage, une histoire relativement exhaustive des 3 années. Mais 4h30, 4h45, je ne sais plus comment elle faisait le montage, on s'est dit, c'est trop long, quoi. Je pense que pour un sujet comme ça, il faut vraiment rester dans le créneau de moins de 2 heures pour raconter cette histoire. Mais c'était un très beau film, vraiment. Moi, j'aimais beaucoup ce montage-là. Et Cédric aussi. Donc, on est arrivé au montage actuel. Et donc, Cédric s'est avéré la personne qui pouvait le mieux porter le film, de par sa médiatisation, mais surtout parce qu'il n'a jamais lâché l'affaire, quoi. C'est-à-dire des tas de bénévoles, d'aidants, de solidaires, à un moment, pour des raisons familiales, des raisons professionnelles, ce qui est tout à fait compréhensible, ou de santé, on fait un break, quoi. Ils sont arrêtés en mois, deux mois, ils sont partis en vacances, etc. Lui, il est déjà les seuls moments où il ne s'est pas occupé des gars, c'est quand il était en garde à vue, quoi. Le reste du temps, il était là tout le temps, tout le temps. Cette histoire l'a traversé, l'a porté, et là, c'est devenu sa vie, quoi. Donc, c'est en plus un super acteur, donc voilà, c'est pour ça que le film, enfin, Cédric est le personnage principal du film, pour raconter cette histoire et pour tenir cette idée, quoi. Parce qu'un film, c'est une idée, et là, c'est une idée.
En ce moment même, il y a une vingtaine de mineurs qui sont chez moi, qui sont en attente de prise en charge. Donc clairement, l'État me demande de garder des gamins parce qu'eux, ils n'arrivent pas à les gérer. Il y a des demandeurs d'asile qui sont en attente de déposer des demandes d'asile. Nous, on essaie de faire progresser la loi à la frontière franco-italienne. Et là, on me menace de 4 mois avec sursis. Donc les actions préfectorales mettent des enfants en danger. Les actions préfectorales et ministérielles, donc du coup, mettent des majeurs en danger. Et on me met moi qui protège des gens, on me menace de prison, mais c'est quand ils veulent. Dans leur prison, j'irai dans leur prison, il n'y a pas aucun problème. Et je continuerai à me battre dans leur prison. Et je m'arrêterai, ma liberté ne se ratera jamais au barreau de leur prison. Et ça, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai et je ne m'arrêterai pas.
On est dans une histoire, c'est un film d'action quand même. C'est des actions permanentes qui se succèdent. Et donc je préfère être dans le fait de faire et dans l'action, plutôt que d'être soit dans le jugement, ou la distance, ou le recul, ou etc. Ça me correspond mieux, quoi. Voilà. Pour moi, la séquence clé du film, c'est la séquence quand on est au squat des Lucioles et qu'on parle avec le directeur de cabinet et avec le procureur de la République. C'est un plan séquence qui dure 7 minutes, qui décrit la situation, quoi. C'est-à-dire, les costumes sont là, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Les mecs, l'autre, il a son petit par-dessus, l'écharpe, il est en petit mocassin ciré, le procureur saute sur une cravate, nous, on est habillés comme des hippies, les flics, ils sont en uniforme. Et c'est deux mondes, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la vision administrative de cette situation, qui est représentée par le procureur et le directeur de cabinet, qui ne répond pas aux questions qu'on lui pose, enfin, que Cédric leur pose, en leur disant, voilà, nous, on est dans l'illégalité, mais vous aussi, vous l'êtes. Et si nous, on l'est, c'est parce que vous l'êtes. Enfin, bref. Et là, tout ça glisse. Et je trouve cette séquence absolument admirable. Ils n'ont pas osé, à ce moment-là, me prendre la caméra. Et puis, d'ailleurs, on voit qu'il y a un garde mobile qui filme aussi. Il y a le contre-champ, quoi, de cette conversation.
J'avais confiance en la justice. Je pensais que la justice était indépendante et on a la preuve que non.
Voilà, c'était donc Cédric Auroux qu'on entendait, qui porte ce documentaire, ainsi que son réalisateur qui a aussi participé finalement à toutes ces actions citoyennes pour héberger des migrants. Donc ça donne un documentaire qui est vraiment très éloigné de ce que peut faire par exemple Depardon qui reste à distance. Lui, pas du tout, Michel Toesca. Il est partie prenante de ce qu'il raconte, et ce qu'il raconte est fort intéressant. Libre de Michel Toesca, donc c'est sur les écrans. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial clandestin migrant au cinéma. On écoute 5 extraits et il faut en deviner le titre, et on commence par quelque chose de facile.
C'est vous qui hurlez comme ça? Vous savez l'heure qu'il est?
C'est bon, c'est fini, excusez-moi.
Et vous ramenez encore ces types-là dans l'immeuble?
Pas dans l'immeuble, non. Chez moi.
Oui, c'est interdit. C'est tranquille ici, on n'a pas de problème.
Quel problème? C'est un gosse, il a 17 ans.
Vous n'avez pas le droit de les faire venir ici, c'est tout.
Tu restes là.
Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que monsieur fait venir des clandestins dans l'immeuble et qui...
C'est bon, ça va.
Non, ça va pas. Mais regardez ça dans quel état il est. Ils sont crasseux, ils ont la gale et ils volent. Moi, je vous préviens, j'appelle le syndic.
Vas-y, appelle-le. Tiens, puis appelle l'armée même si tu veux.
Non, mais vous comprenez pas ce qu'on vous dit? En plus, je sais pas ce que vous fricotez avec lui là, mais c'est pas net, hein.
Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux répéter ce que t'as dit, là?
Hein?
Et voilà, on aimerait bien avoir un voisin comme ça. C'est facile.
Welcome de Philippe Fioret.
Oui. Film de 2009 avec l'histoire d'un jeune migrant qui veut franchir la Manche pour aller au Royaume-Uni. Deuxième extrait.
Un certain Marcel Mars habite près d'ici. Parlez-moi de lui.
Avec plaisir. C'est un de mes meilleurs clients. Toujours ponctuel. Pas le genre à se réveiller la nuit à cause de ses dettes.
Sa femme est à l'hôpital.
Oui, la pauvre. Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir.
Et comment prend-il ça, Marx?
Le pauvre, il est effondré. Mais il fait bonne figure.
Quelqu'un de chez lui? De la famille?
Personne. Seulement son chien. Pauvre bête. Sa maîtresse lui manque beaucoup.
Eh bien, je vous remercie de ces renseignements.
Je ne fais que mon devoir. J'aime la société. Moi, je sais très bien quelque chose, monsieur le commissaire.
Un ananas ?
Un ananas, alors.
Alors, ça, tu n'as pas trouvé, c'était Jean-Pierre Daroussin, effectivement, qui est commissaire. C'est un regard distancié sur la France des centres de rétention et des clandestins traqués. Le titre, c'est le nom d'une ville. Et le réalisateur, il est finlandais. Alors là, Le Havre.
Le Havre, ouais, ah oui, mais je ne savais pas. Oui, je ne l'ai pas vu en plus. Ouais.
Voilà, eh bien, film de 2011, troisième extrait.
Angie.
Tu vas bien ?
Super, mon cœur. Ah, t'es ravissante.
T'as pas changé, toi, c'est vrai.
Ça, tu peux le dire, putain.
Et alors, tu vas bien ?
Ah, c'est un peu chiant.
Ah ouais ?
Ouais, ces enfoirés de nouveaux Polacs, ils commencent à m'emmerder. C'est vrai, j'aimais bien mieux les ouvriers d'avant. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune plainte, et ils fermaient leur gueule et ils se contentaient de travailler. Là, ils ont leurs petits papiers, ils foutent rien et ils jouent au chef.
Écoute, Tony, t'inquiète pas, d'accord ? On va t'arranger tout ça.
Ouais ?
Oui, on te fera
super,
un bon
prix. Super. C'est pour ça que je t'ai appelé, chérie. Ouais.
Pas de problème. Tu me feras un chèque ?
Ouais.
Ouais ?
Ouais, je te fais un chèque.
Laisse-le en blanc.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. T'apprends vite, toi, chérie.
Alors, on aimerait bien avoir un patron comme ça qui refuse des syndicats. Non.
Alors, c'est sur le milieu des Polonais ?
Oui, c'est Polak. Le milieu du travail clandestin. Travail clandestin. Ça se passe au Royaume-Uni.
Alors, peut-être le Lodge,
oui,
là.
C'est ça.
It's a Free World.
Oui. Ouais. Tout à fait, film de 2008.
Je ne sais pas pourquoi, je pense à Voyage au bout de l'enfer, parce qu'il y a des Polonais aussi.
Non, bah là, en plus, la version française est calamiteuse.
Ouais,
voilà.
Oui, c'est un peu bizarre. Hein.
Allez, cette fois-ci, on prend le temps avec un film que j'adore, c'est le quatrième extrait.
Dans ce monde, le péché qui paye le prix du passage peut voyager partout et sans passeport, alors que la vertu, qui est pauvre, est arrêtée à toutes les frontières. Avant de porter son jugement, le capitaine veut d'abord sous-peser la bourse de Jonas. Il lui demande le triple du prix habituel. Et Jonas est d'accord. Le capitaine comprend alors que Jonas est un fugitif. Mais il décide de ne rien dire, car il sait que sa fuite peut lui rapporter beaucoup. Quand Jonas sort sa bourse, le capitaine fait sonner chaque pièce d'argent, puis se dit en lui-même « En tout cas, cet homme n'est pas un faux monnayeur. » Sur quoi, Jonas est inscrit comme passager.
Alors, bon, c'est pas forcément facile, cette voix off est omniprésente. Il se trouve que c'est un mélange, en fait, ce récit est un mélange.
C'est pas un film post-apocalyptique ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, c'est vraiment le passage vers le Royaume-Uni d'un intellectuel algérien qui raconte son histoire. Et puis, c'est aussi l'histoire de trois frères qui perdent leur frère cadet. Voilà. Bon, il y a une histoire de deuil, il y a plusieurs deuils. Et donc, ce récit, ce qu'on entend là, c'est un récit qui est le mélange bien de l'œuvre de Kadic et puis de l'histoire de Jonas qui est racontée dans la Bible. Et c'est l'œuvre de Arnaud Despalières, le film Adieu.
Ah, mais je n'ai pas. Ah oui, d'accord.
Qui est vraiment un film. Bon, moi, je pense que c'est un de mes meilleurs films. Enfin, un vrai bijou cinématographique que je vous recommande. Film de 2003, dernier extrait.
Oh. Bonjour.
Ça sonnait très bien.
Ah, je m'excuse.
Vous excusez pas. C'est là pour ça, en fin de compte. J'étais allongé sur le lit à écouter ma musique et je me disais. C'est marrant ce rythme que j'entends. Allez, asseyez-vous. Je vous montre. Posez vos pieds bien à plat sur le sol. Et là, vous mettez le tambour entre les jambes, comme ça. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on décolle un peu la base du sol, avec les chevilles, comme ça.
Alors évidemment, il faut avoir vu le film. Hein.
Je ne l'ai pas vu. En plus, si je l'avais vu, je l'aurais vu en version originale, je suppose. C'est donc, pas simple, là, en fait.
Alors, c'est l'histoire, c'est la rencontre entre...
Il n'est pas pakistanais
Non, il n'est pas pakistanais. Ouais, c'est la rencontre donc, entre un universitaire et des migrants qui squattent son appartement new-yorkais, je crois. Et c'est l'occasion de se confronter à son propre parcours et de se questionner sur son rapport à l'autre. Et dans ce film, eh bien, il apprend à jouer... le tam-tam, et ça revient, c'est un leitmotiv du film, c'est pour ça que j'avais choisi cet extrait. Et c'est le film The Visitor de Thomas McCarthy, film de 2008, voilà, que j'ai trouvé plutôt bien. Et on fait vite maintenant, on achève ce blind test et on écoute Marine nous parler du peuple et son roi.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
14 juillet 1789, le peuple vient de prendre la Bastille, la Révolution bat son plein. Les Français veulent une nouvelle constitution, ils veulent que le roi quitte Versailles pour venir à Paris. L'Assemblée nationale tient sa première séance, c'est toute la République qui se met en place en l'espace de quelques années. Voilà ce que Un peuple et son roi, nouveau film ambitieux de Pierre Scholler, réalisateur de Versailles et de l'exercice de l'État, nous raconte.
Messieurs, Paris souffre. Paris a faim.
Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Faut que les puissants entendent nos voix.
Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu ?
J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main.
J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête.
Pierre Scholler s'est documenté pendant près de 6 années afin d'être dans une vérité historique absolue. Un peuple et son roi est un film très précis dans ce qu'il décrit, mais il est également tout l'inverse d'une grande épopée historique en costume, préférant nous montrer cette révolution à travers les yeux du peuple. Selon le réalisateur, la révolution de 1789 est dans notre ADN à nous, Français. Et en effet, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre ce que l'on voit dans le film, notamment les scènes d'assemblée auxquelles le peuple assistait et participait, et les velléités révolutionnaires des actions telles que Nuit debout. Le film, mais c'est son but, résonne en nous de façon profondément actuelle. Alors, on tient également le casting le plus impressionnant de l'année, hein, mais ce qui dessert finalement un peu le film. Sur des dizaines de comédiens, la plupart sont des têtes clairement connues. Il aurait peut-être mieux valu opter pour des acteurs un peu plus confidentiels pour donner chair à de grandes figures historiques. Si Denis Lavant est proprement magistral lorsqu'il interprète Marat et que Laurent Lafitte incarne tout en embonpoint un Louis XVI très intéressant, d'autres choix de comédiens moins convaincants nous donnent parfois un peu l'impression d'être devant une parodie de film historique sur Canal+. Louis Garrel en Robespierre ou Stéphane de Groot en curé, par exemple, sont très comiques et c'est assez involontaire. Hein. Et puis, le problème, c'est qu'avec tous ces comédiens, il ne reste pas grand-chose ensuite pour payer les effets spéciaux. Hein. Et heureusement, il y en a peu, car ils ne sont vraiment pas très réussis. Un peuple et son roi reste un film surprenant, affirmé, portant la marque d'un véritable auteur. La direction des acteurs est proprement singulière, volontairement singulière. Le jeu est théâtral, les dialogues sont rares, puisqu'on assiste surtout à des discours ou à des scènes collectives avec des gens du peuple qui sont plutôt taiseux. Et une personne tout de même se démarque, Adèle Haenel, tout en intensité, comme à son habitude. Et à travers elle, eh bien, on découvre un versant moins connu de la Révolution française, l'affirmation des femmes. Car en ces temps de révolution, les femmes furent très actives, apprenant à lire pour pouvoir comprendre les journaux, demandant des droits en tant que citoyenne et combattant aux côtés des hommes. Si la réalisation est irréprochable, sachant aussi bien cueillir des moments d'intimité que des scènes de grande envergure, de bataille ou de débat, les dialogues en revanche laissent parfois un peu perplexe. Hein. On a le droit à des punchlines un peu artificielles, du genre « je ne vais pas perdre ma vie et essayer de la gagner » ou encore des plaisanteries que l'on pourrait qualifier de révolutionnaires au sens propre du terme, comme « vous n'êtes pas un Bourbon, vous êtes un bouffon ». MDR, comme on disait en 1789. Hein. Et puis alors, parfois, le ton est même carrément décalé, comme lorsque le roi monte sur l'échafaud pour se faire guillotiner et qu'on lui précise « attention, ça glisse ». Bah oui, ça serait dommage que le roi se fasse mal avant qu'on lui coupe la tête. Hein. Donc, un peu trop long, car très précis dans sa reconstitution historique. Un peuple et son roi n'en demeure pas moins un film captivant, très vivant, à milieu des habituels films historiques figés et poussiéreux, et qui réussit surtout à nous rappeler eh bien, d'où l'on vient et à nous donner l'envie de retrouver un peu de notre âme révolutionnaire.
Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, produit par Xavier Jean, hein, réalisateur de Frontières et récemment de Budapest, Hostile hein, intrigue au début par son parti pris risqué en alternant deux histoires distinctes avec le même personnage principal. Alors, dans un univers post-apocalyptique, hein, Juliette tente de survivre comme elle peut. D'étranges créatures s'en prennent à la race humaine. La même Juliette se retrouve aussi à notre époque dans une galerie d'art où elle rencontre un Français richissime, organisateur de l'expo. Alors l'idylle ne fait que commencer, introduite d'ailleurs par une scène assez embarrassante où la jeune femme confond bacon avec la viande, le bacon. Mmh. Bon bref, on verrait plus ça dans une comédie. Alors la suite n'est qu'un aller-retour maladroit entre les deux récits qui n'ont rien en commun jusqu'au twist final censé expliquer ce dispositif. Alors l'idée assez conceptuelle et défendable, voire excitante sur le papier, mais en termes de proposition de cinéma, totalement casse-gueule. Alors d'autant que la gentille amourette est un inintérêt absolu, Le côté immersif de la partie anticipation est constamment gâché par les scènes se situant dans le présent, à peine digne d'un soap opéra de bas étage. Alors on n'a pas envie de tirer sur l'ambulance, d'autant qu'il s'agit d'un premier long métrage de Mathieu Turi et de surcroît de genre très difficile aujourd'hui à monter dans l'hexagone, où l'on préfère miser sur les comédies en termes de cinéma populaire. Alors pourtant, le monde dystopique baigne dans une ambiance étouffante, plutôt réussie, les décors sont crédibles, la photo instaure un climat poussiéreux digne des meilleurs films post-apo, et la mobilité de la caméra prouve le talent du jeune cinéaste. Le design des créatures, souvent filmées hors champ, est assez épatant. Franchement, les effets spéciaux sont plutôt de très bonne qualité. Alors, Turi tente une greffe donc, entre un drame romanesque et film d'horreur futuriste à la Pitch Black. La démarche originale se heurte à l'implication d'un spectateur qui n'arrive jamais à relier les deux univers trop disparates. En fait, il ne parvient pas à convaincre, à impliquer le spectateur. Dès que le climax s'intensifie, dès que le suspense nous saisit un peu à la gorge, paf, retour aux discussions entre les deux tourtereaux, entre ce prince charmant philanthrope souhaitant sauver la pauvre petite fille accro à la drogue. Alors oui, j'avais oublié cet aspect qui a son importance dans la résolution finale. Enfin, c'est un peu dommage. Il y avait de l'idée, mais je pense que dès le début, c'était trop casse-gueule comme projet.
Eh bien, on aura commencé avec des films qu'on recommande pour terminer avec des films qu'on recommande moyennement.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure !
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, encore une interview et même deux, celle de Michel Oslo. On est très content pour le film d'animation d'Ilili à Paris et l'acteur de Tadzekar.